Gravel dans le retour, le plus solide duo depuis Jack et Meg White.
Meilleur duo parce que on est devenu un solide trio au cours des dernières années. Mon nom est Denis Gravel, Véro est là évidemment depuis 20 ans qu'elle traîne à mes côtés.
Je traîne.
Et Audrey, pas encore trop découragée de gérer ses vieux parents, donc elle est encore avec nous autres.
Oui.
Hey, pour nous rejoindre, 88-971-1021, 15h36, sur les routes, Audrey.
Si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est déjà assez compliqué, quoique c'est la routine, là. Des problèmes sur Henri IV Sud à partir de Charest, ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Et ça commence à s'installer devant la base militaire dans le coin de Shannon, route de la Bravoure, dans les deux directions. Si vous voyez autre chose, 88-971-1021, texto.
Ça regarde mal dans l'actualité locale. Ouais. Véro, hier, tu nous signalais la disparition d'une femme. Aujourd'hui, tu nous parles de la découverte d'un corps.
Puis, sans faire de lien direct entre les deux, les policiers n'ont pas écarté la possibilité que le corps qui a été repêché un petit peu plus tôt aujourd'hui dans le secteur du Quai 22 par les plongeurs de la SQ soit celui de Susanna Rocha-Cruz, qui est toujours introuvable. La dernière fois qu'il a été vu, c'est le 7 janvier dernier dans le secteur de la rue Villeux. C'est le secteur où ça semblait demeurer. Hier, on a mis en place un poste de commandement. On a récidivé aujourd'hui pour tenter d'avoir le plus d'informations possible de la part des policiers. Il y a un individu qui a été accusé hier en soirée, Abraham González Lyon, 43 ans, pour des voies de fait contre la victime, lui avoir causé des blessures corporelles. Pas d'autres accusations qui ont été déposées jusqu'à maintenant. Ce serait dans un contexte de violence conjugale. Et dans le point de presse des policiers un peu plus tôt cet après-midi, on a dit qu'on n'était pas en mesure de confirmer l'identité du corps. Par contre, il y a une autopsie qui est pratiquée. On dévoilera plus de détails éventuellement. Mais disons que les deux se ressemblaient beaucoup dans les différents indices qu'on peut voir.
Demain à la Maison-Blanche, est-ce qu'on demande au meilleur d'entre tous, c'est-à-dire J.D. Vance, de négocier l'acquisition du Groenland par les États-Unis?
Il y aura une visite officielle des dirigeants du Danemark et du Groenland, effectivement, avec le vice-président J.D. Vance, qui, l'année passée, avait été quand même assez rough par rapport à ça, avait même fait une visite qui était non sollicitée en territoire du Danemark et du Groenland. Puis le président Trump, qui, dans les derniers jours, avait mentionné, entre autres en fin de semaine, que d'une manière ou d'une autre, il finirait par s'emparer de l'île de l'Arctique, même si on lui dit qu'elle n'est pas à vendre. On parle beaucoup de sécurité en lien avec tout ça. Puis disons qu'il y a des inquiétudes qui ont augmenté. Je comprends que c'est pas le même dossier que le Venezuela, mais quand tu te rends compte que les États-Unis peuvent faire ça puis que t'es le Groenland, j'imagine que tu te poses des questions.
S'il y avait des règles écrites ou non écrites, on dirait que les États-Unis et son président sont maintenant bien décidés sur le fait de ne pas vraiment les respecter. Moi, je trouve ça inquiétant et freakant comme ça se peut pas. Farnell Morissette, vulgarisateur d'actualité, salut.
Salut, comment ça va? À part l'inquiétude et le freakage, que je partage un peu en passant.
Oui. C'est pas juste nous autres qui pensons trop, là.
Je veux dire, il faut quand même garder son calme, faut pas capoter, là. Il faut qu'on reste rationnel. Mais oui, ce qui se passe, c'est inquiétant.
En début d'année, j'ai beaucoup aimé tes explications sur le dossier du Venezuela. T'es allé voir la gang du matin. On a pensé t'inviter avec nous autres pour qu'on parle du Groenland un peu. Puis premièrement, ça s'achète-tu le Groenland du jour au lendemain? Puis deuxièmement, si ça s'achète pas, les États-Unis peuvent-tu juste décider d'y aller?
De le prendre.
Puis de planter le drapeau comme on a fait ça à Lune, mettons, là?
La réponse rapide à tes deux questions, c'est oui, sauf que quand ils ont planté leur drapeau sur la Lune, ils ont très explicitement dit à la planète complexe, c'était pas pour prendre possession de la Lune, c'était purement symbolique. Mm-hmm. Là, ce serait pas symbolique.
Non.
Mais dans l'histoire des États-Unis, le territoire des États-Unis a pris son expansion plus par achat que par conquête militaire.
Okay.
Il y a eu des deux. Et les États-Unis ont fait et des conquêtes militaires, mais aussi des achats. Puis les deux les plus connus, qui pourraient un peu établir une espèce de précédent de comment les États-Unis fonctionnent, il y a eu l'achat de la Louisiane, le territoire de la Louisiane.
Qui était français.
Qui était français, que Napoléon a vendu aux États-Unis, un territoire, je dirais, énorme. Là, c'était le bassin versant complet de l'ouest du Mississippi. Ça allait jusque dans le sud de l'Alberta et du Saskatchewan. Vendu pour, à l'époque, 15 millions de dollars US, qui est l'équivalent d'à peu près 400 millions aujourd'hui. Et là, faut faire bémol un peu parce que ce que la France a vendu, c'était pas exactement le territoire, c'était ce que la France revendiquait comme son droit exclusif d'acheter le territoire des peuples autochtones qui vivaient là.
Mm-hmm.
Alors, les États-Unis ont dû après ça négocier à la pièce avec les peuples autochtones qui étaient déjà là, pas toujours de façon totalement équitable.
Non.
Mais l'achat essentiellement de la Louisiane était vu à l'époque comme un excellent deal pour les États-Unis. Et la France était très contente aussi. Napoléon n'avait aucun intérêt à ce territoire-là. Il
beaucoup
avait...
trop loin pour le développer de toute manière.
Beaucoup trop. Et c'était
enclavé.
C'est ça. C'était rendu clair que la France n'allait plus avoir une présence coloniale en Amérique du Nord depuis longtemps. Alors, les espèces de droits revendiqués par la France ne valaient plus grand-chose. Napoléon espérait gagner 10 millions. Il y a eu 15. Alors, il était content. Mais si on va un peu plus loin, ça c'était en 1803 en okay. passant, si on va un peu plus loin en 1867, l'année que le Dominion of Canada, notre pays, a été créé dans sa forme actuelle, ben, il y a eu la vente par la Russie de l'Alaska aux États-Unis aussi. L'Alaska qui appartenait de façon encore une fois très coloniale à la Russie à l'époque. C'était une des rares possessions coloniales de la Russie. Il y avait moins de 700 Russes dans le territoire complet. En tant qu'opération coloniale, c'était un échec. Et le tsar Alexandre le deuxième venait de perdre des guerres, venait de perdre la Crimée dans une guerre européenne. Il avait besoin de payer ses dettes pour payer ses mercenaires pour rester en place. Alors, il a vendu l'Alaska. Pourquoi il l'a vendu aux États-Unis?
Alors que le Canada est collé dessus.
Le Canada est collé dessus. Ouais. De un, le Canada ne se rendait pas jusque-là à l'époque, mais c'était quand même les territoires du Nord-Ouest, les territoires du Rupert qui allaient dans cette direction-là. C'est que la Russie était un opposant géopolitique de la grande puissance géopolitique mondiale à l'époque, le Royaume-Uni. Et la Russie ne voulait pas que l'Alaska tombe entre les mains de son rival principal, la Grande-Bretagne. Alors, sachant que le Canada venait d'être créé, l'expansion vers l'ouest du Canada avait aussi commencé, la Russie voulait pas l'Empire britannique comme voisin à l'ouest.
Fait on va vendre à ceux qui se sont débarrassés de l'Empire britannique.
On va vendre ça aux gens qu'on sait qu'eux autres, ils vont jamais vendre le territoire aux Anglais, on va le vendre aux Américains. Et les États-Unis l'ont payé, c'est drôle, ils l'ont payé littéralement avec un chèque. Là. Je veux dire, le chèque, il existe encore, il est dans des musées.
Fait que l'Alaska vaut des peanuts.
Oui, ils l'ont acheté pour 7,2 millions, alors à peu près...
Il y a des maisons plus chères que ça. Là.
Ben, avec l'inflation, je veux dire, les prix ont augmenté.
On ramène même pas deux joueurs des Nordiques à ce prix-là.
Aujourd'hui, on parle de plus dans du 180-200 millions à peu près avec le...
On n'a pas une équipe de hockey!
Mais même là, je veux dire, pour le territoire de l'Alaska, c'est des peanuts. Sauf que même à l'époque, ça c'est drôle, les politiciens américains disaient: « Ah ben non, ça c'est bien trop payé, ça c'est trop cher, ça n'a pas de bon sens. Pour un territoire qui n'a absolument rien là, il n'y avait pas de ressources, personne n'était intéressé. » On ne savait pas à l'époque qu'il y avait du pétrole, on ne savait pas à l'époque qu'il y avait de l'or en Alaska. Alors ça, ça a été un achat qui a été critiqué. Ça, c'est un achat de territoire, c'était pas un achat de droit, c'était carrément un achat de territoire. Là, alors ça se fait.
Oui, ça se fait, mais dans les deux cas que tu nous racontes, et la Louisiane et l'Alaska... Est-ce que ça a été une vraie transaction où on a négocié les coûts, où les États-Unis disaient, vendez-nous-le à prix d'amis, ou on va aller l'envahir? Parce que
le consentement
la situation pour le Groenland, c'est un petit peu ça, là, le message de Trump.
Oui, dans le passé, puis ça, tu fais très bien de faire la distinction, là, c'était des vraies ventes. C'est-à-dire, si on parle en termes, chapeau juridique pour 30 secondes, pour que ce soit une vraie vente, il faut que ce soit... un acheteur consentant qui achète d'un vendeur consentant à un prix qui fait leur affaire entre deux.
C'était pas du chantage.
Non, c'est ça. C'est ce qui est proposé présentement par le Groenland, une espèce d'hypothétique achat, je mets le mot entre guillemets, là. C'est plus du genre tu me le vends, sinon je te le prends. Ça, c'est pas un achat. Si on veut être poli, c'est de l'expropriation, puis si on veut pas l'être, c'est de l'extorsion.
C'est juste une façon brutale de négocier, ou d'après toi, c'est ça, présentement, l'avenir des États-Unis sous Trump, de dire, tu nous le donnes ou on va le chercher?
Ben, comme tu disais, on le sait pas, parce qu'il y a plus de règles. Donald Trump, l'administration Trump a clairement établi que les normes internationales, ça les intéresse pas. Il l'a dit dans une entrevue avec le New York Times, que la seule limite, c'était sa moralité. Alors, le signal que ça envoie à tout le monde, c'est que moi si je suis le Danemark aujourd'hui, je suis obligé de le prendre au sérieux parce que je sais pas ce qu'il va faire.
D'ailleurs, c'est quoi le Groenland, le Danemark, c'est quoi la relation? Pourquoi on cible le Groenland en particulier de la part des États-Unis?
Le Danemark est un peu comme... C'est une espèce de vestige de colonialisme, mais le Groenland n'est pas une colonie du Danemark. Le Groenland est un territoire avec un très grand niveau d'autodétermination, d'auto-administration, qui fait encore partie techniquement du royaume du Danemark, mais qui, pour pour, si vous êtes un Groenlandais présentement, là, c'est pas vrai que c'est le Parlement danois qui décide de vos lois, de votre réalité, de vos pratiques. C'est un territoire qui s'auto-administre, mais qui
ça
fait partie...
Ça se compare à quoi? Canada versus Royaume-Uni?
Ça se compare plus à, disons, le Canada avec le territoire du Nord-Ouest.
OK.
Où c'est... Bah, même là, je pense que c'est encore plus loin que ça. Je veux dire, le territoire du Nord-Ouest, en théorie, est un territoire directement administré par Ottawa, ouais. Mais en pratique, qui a énormément d'autonomie, qui se gère presque comme une province.
Mais Fernand, j'ai de la misère à comprendre. Il n'y a pas de ressources ou de... on n'est plus en 1800, là, tu sais, dans le sens que je comprends que si Trump décide que lui, il n'y a pas une limite, il n'y a pas, des façons de faire pour éviter tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter lui à un moment donné, là.
Ben, il y a des façons de faire pour éviter ça. C'est le droit international, c'est les principes de
loi.
Mais il n'y en a rien à foutre. Alors, là c'est plate à dire, mais on est en train de reculer dans notre réalité mondiale vers une espèce d'état de loi de la jungle, comme ce qui existait avant les développements des lois du principe du droit international avec
on
les Nations Unies et tout ça.
C'est quoi?
Ben, je veux dire, il n'y a pas une armée au monde qui va... Je pense, moi, si ça vient à ça, j'imagine très mal une armée au monde qui va déclarer la guerre aux États-Unis pour le Groenland. C'est plate à dire, là. Mais la seule vraie défense qu'il y a, c'est le respect des principes de droit internationaux, qui est une espèce de respect des règles du jeu, qui fait qu'on est capable de jouer ensemble au lieu de se taper dessus.
Tu sais, dans le cas du Venezuela, on entend beaucoup que ce qui est à la clé, c'est les ressources, principalement les ressources pétrolières. Qu'est-ce que le Groenland a qui fait qu'actuellement, les États-Unis le convoitent?
Si on regarde les réponses officielles...
Jewel, la chanteuse?
Ouais, non, peut-être.
Elle est en Alaska,
il y a des ressources en Groenland. Il y a des minéraux qui sont très importants, particulièrement pour la création de micropuces et ce genre de choses-là. Mais je veux dire, ça, c'est quelque chose que les États-Unis pourraient négocier pour y avoir accès. Puis si c'était ça... Alors, l'intérêt des États-Unis, puis là-dessus, je veux dire, il faut dire, l'administration Trump a été très claire. L'intérêt des États-Unis, c'est une question de défense nationale pour eux. Et la raison est très simple. Et les États-Unis ne peuvent pas permettre à la Russie d'avoir un accès trop facile au nord de l'Atlantique, surtout avec des sous-marins russes.
Puis en passant par en haut,
c'est l'accès le plus facile. Okay. Alors, si tu es les États-Unis, ben, tu veux avoir accès à des bases militaires que tu contrôles, que tu n'as pas besoin de t'assurer
mais
que
le
royaume...
Mais il y en a là-bas des bases militaires américaines.
Ouais, mais je peux comprendre que, je veux dire, les États-Unis géopolitiquement regardent l'Europe et eux, ils ne veulent pas s'impliquer dans des guerres européennes. Alors, ils ne veulent pas être obligés d'aller défendre le Danemark pour pouvoir contrôler leurs bases militaires au Groenland. Je pense que c'est un peu ça. Il y a d'autres questions aussi. Je pense que les États-Unis regardent l'ouverture éventuelle imminente du passage du Nord-Ouest aux bateaux de marchandises, des eaux que le Canada revendique comme étant les nôtres. Mais si t'es les États-Unis, tu dis ben, « j'ai l'Alaska d'un bord, j'ai le Groenland de l'autre », c'est bien beau que le Canada dise que c'est à eux, mais c'est moi qui contrôle réellement l'accès. Il y a peut-être de ça aussi. Je pense qu'il y a probablement du symbolisme là-dedans. Ça fait très longtemps que les États-Unis n'ont pas ajouté du territoire à leur possession.
Farmel,
si t'es Donald Trump, tu veux ça.
Il y a un texto qui vient de rentrer qui dit « on revient au temps des empires ». Puis là, je veux t'amener là-dessus.
C'est de l'impérialisme. Le mot est très bien choisi, là, oui.
Parce que, veut pas, nous autres, le Canada, là, si tout ça se fait, là, ça veut dire qu'on va voir les États-Unis pas seulement au sud, on va être encerclés littéralement, puis on le sait, c'est un fantasme de Donald Trump, il s'en est pas caché, il faut que le Canada devienne le 51e État. Je comprends qu'il dit moins par les temps qui courent, mais est-ce que, d'après toi, ça donne du poids à cette intention-là au total tout de dire, nous autres, on augmente la surface des États-Unis puis on va inclure le Canada là-dedans, que ça le tente ou pas.
C'est là qu'il faut avoir, je pense, une inquiétude lucide, disons. Parfois, on ne veut pas paniquer, là, c'est pas le temps de freaker, on va pas commencer à crier dans les rues avec nos mains sur nos têtes. Là. Mais il faut avoir une inquiétude très sérieuse parce que à quoi ça ressemble le Canada géopolitiquement, politiquement. C'est quoi la réelle souveraineté d'un Canada qui est collé aux États-Unis au sud le long d'une énorme frontière indéfendue et indéfendable, qui a les États-Unis au sud, les États-Unis au nord-ouest avec l'Alaska, les États-Unis au nord-est avec le Groenland? Il faut qu'on commence à se poser des questions très sérieuses. Et c'est des questions qui sont super inconfortables. C'est le genre de choses que les 50 dernières années, les 70 dernières années de géopolitique, de politique internationale, nous ont habitués à se dire on n'a plus à se poser ces questions-là. Ben là, il faut qu'on recommence à se poser ces questions-là. À quoi ça ressemble un Canada dans un monde où on est entouré des trois bords par les États-Unis?
Parce que ça peut redevenir un ultimatum pour à peu près tout, des nouveaux partenariats économiques, de la stratégie militaire et ainsi de suite, que Donald Trump dise, ben vous allez faire ce qu'on veut, vous allez pas faire ce qu'on veut pas, parce que sans ça, on va vous annexer que ça vous tente ou pas. C'est un peu ça là, qui va planer un peu sur le Canada. Là.
Et puis là-dessus...
C'est peut-être même déjà le cas un peu.
Ben oui, c'est un peu déjà le cas. Puis je pense que là-dessus, je veux dire, le gouvernement Carney fait des pieds et des mains pour essayer de diversifier notre réalité économique, pour essayer de diversifier nos partenariats économiques. C'est pas pour rien que la Chine a sauté dessus un peu plus tôt aujourd'hui en disant le Canada devrait briser ses liens de relations internationales très étroites avec les États-Unis pour créer sa propre réalité. Mais
c'est un jeu risqué.
C'est un jeu très risqué parce que les États-Unis peuvent pas se permettre d'avoir le Canada à côté d'eux qui n'est pas prochement aligné à leurs propres intérêts. Sauf que, je veux dire, les États-Unis parlent d'acheter le Groenland. Si les États-Unis veulent s'approprier le Canada, ils ont probablement même pas besoin de l'acheter. Ils ont juste besoin de déchirer l'entente de libre-échange. Oui, ça va leur faire mal à eux aussi.
Trump
mais ça va nous
aujourd'hui
faire
qu'il n'y avait rien à foutre de cette entente-là.
C'est ça. Alors, ça va nous faire beaucoup plus mal à nous. Puis là, ils ont juste à attendre qu'on vienne les voir et dire « Ouais, finalement, écoute, ça nous tente de manger encore cette semaine. » Fait que j'exagère, là. Ça va pas être ça, mais on se comprend.
T'sais. J'ai une question on the side pour toi, puis je suis curieux d'entendre ta théorie. Pourquoi on laisse les coups des franches à ce point-là à Donald Trump présentement aux États-Unis? On voit ce qui s'est passé là, avec l'agent du ICE qui a tiré une civile trois fois dans le visage pour presque rien. Tu sens qu'il y a une confrontation aussi entre certains États, certaines administrations et la Maison-Blanche de façon de plus en plus ouverte, mais on dirait que, de façon générale, les démocrates attendent juste que le mandat soit terminé, que bien des républicains d'oser ont décidé aussi de peut-être rester assis sur leurs mains. Je comprends qu'on essaye de limiter le pouvoir de Donald Trump, mais je trouve qu'on le fait de façon très timide. Qu'est-ce qui se passe présentement aux États-Unis?
D'un, je pense que c'est la bonne question. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Parce que c'est les seuls qui peuvent arrêter l'administration de Donald Trump, c'est les États-Unis. Il n'y a personne d'autre à travers le monde qui peut le faire, à toute fin pratique. Alors, là-dessus, si on veut donner l'interprétation la plus charitable possible aux démocrates, parce que je sais que c'est facile de dire « Ah, c'est comme des poulets sans tête, ils ne sont pas capables de s'organiser, ils ne savent pas quoi faire. » Mais disons qu'on s'imagine que c'est quand même des gens intelligents qui se lèvent le matin et qui pensent à l'avenir comme tout le monde. Il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent cette année en novembre. La façon de battre l'élan actuel de l'administration Trump, c'est de lui couper l'herbe sous les pieds en prenant contrôle du Congrès. Et ça va être seulement possible à l'élection de mi-mandat.
Qui est à la fin de cette année-ci.
Qui est à la fin de cette année-ci, en novembre. Alors, c'est pas le temps maintenant de jouer toutes les cartes pour essayer de dresser des petites barrières que l'administration Trump va être capable d'écraser. Si vous êtes les démocrates aujourd'hui, et j'espère que c'est ça la stratégie, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on retient toutes ces cartes, on laisse l'administration Trump avec toute l'arrogance qu'elle semble se développer, s'aliéner de plus en plus de sa coalition, de plus en plus des électeurs qui l'ont appuyé. Il y a bien des modérés qui voient ce qui s'est passé au Minnesota qui n'appuient plus ICE. Il y a bien des modérés qui étaient d'accord parce qu'ils voulaient, par exemple, plus d'aide à l'industrie de l'intelligence artificielle, de la technologie, qui voient que ça ne s'en vient pas. Il y a bien des modérés qui espéraient réduire le prix de l'épicerie. Ça n'est pas arrivé non plus. Mm-hmm. Alors, on laisse à l'administration Trump tout le pouvoir pour qu'après ça, quand tout plante, c'est clair dans les yeux, dans l'esprit de tous les électeurs aux États-Unis, la faute retombe sur qui? Et c'est là qu'on
sortir de l'espèce de zone grise qu'on a actuellement d'interprétation.
Exactement. Alors, en disant, les démocrates vont pouvoir dire, écoute, nous, on n'avait pas le contrôle, on n'a quasiment rien fait, vous ne pouvez rien piner sur nous, là. C'était pas nous, c'était lui qui était en contrôle de tout ce qui se passe. Regarde comment tout va super mal. Et c'est là qu'on commence à sortir les grosses cartes pour pouvoir avoir la victoire qui compte, qui va pouvoir réellement changer la direction. Et ça, c'est en novembre et c'est pas avant.
Farnell, un gros, gros merci. J'ai appris plein d'affaires. J'espère que vous autres aussi, c'était super intéressant.
Vraiment.
Farnell Morissette, vulgarisateur d'actualité sur la situation, oui, du Groenland, mais de tout ce qui se passe également avec les États-Unis, un voisin de plus en plus lousse et de plus en plus inquiétant. 15h54, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Gravel.